Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle ancienne émission. Une nouvelle ancienne émission qui s'appelle 100 ans de cinéma et des poussières et que l'on débute comme ça là sous l'égide du grand Elvis Presley qui ouvre cette première émission 2020-2021 de cette donc nouvelle formule de 100 ans de cinéma. Alors pour la petite histoire, 100 ans de cinéma, c'est une émission donc que je proposais il y a déjà 10 ans, je crois, une émission qui était consacrée à un invité par semaine qui choisissait une thématique de cinéma qui l'intéressait et avec qui on discutait pendant une heure autour de cette thématique. Et en fait, on a repris exactement le même concept pour cette reprise. Mais la petite différence, c'est que cette émission est désormais mensuelle et non plus hebdomadaire, hein, seulement une fois par mois, je vous rassure. Et puis aujourd'hui, on est très content d'accueillir un invité de marque et quelqu'un qui est un habitué aussi des locaux. C'est Yann Kraft, bonjour. Alors, tu es à quel micro, Yann Kraft? Allô? Ouais, vas-y.
Est-ce que tu m'entends?
Bah moi je t'entends, mais...
C'est parfait.
C'est quel numéro?
Je ne sais pas.
Ah ouais, parce qu'ils sont tous montés. Voilà, donc essaye un autre. Voilà, celui-ci, fonctionne très bien. Voilà,
très bien.
C'est très bien.
Eh ben, on va se mettre sur celui-là.
Voilà, merci Yann Kraft d'avoir répondu présent à cette première, à cette reprise de 100 ans de cinéma, donc, et des poussière, voilà, des choses qui tombent dans le studio.
Je suis en train de tout casser.
Voilà, il casse tout, vous inquiétez pas. Tu es donc ce premier invité.
Bah oui.
Et on en est très content, et merci beaucoup d'être présent. Et donc,
j'en suis très content.
Oh bah, c'est chouette. Et puis, comme c'en est le principe, je t'ai laissé le choix de la thématique du thème du jour, et tu as choisi...
La thématique du thème?
Ouais. Le choix, ouais. Tu as choisi comme thématique pour cette première émission...
Jean-Claude Van Damme. Eh oui.
Alors, mais qui est Jean-Claude Van Damme?
Oh, qu'enfin, qui est Jean-Claude Van Damme?
Pour les quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas encore.
Jean-Claude Van Damme est né le 18 octobre 1960 à Berchem-Sainte-Agathe, en Belgique. C'est-à-dire qu'il va fêter ses 60 ans la semaine prochaine.
Oui, bah bon anniversaire.
Déjà... On peut lui souhaiter un bon anniversaire en avance, au cas où il nous écouterait.
60 ans, bel âge, bientôt la retraite.
Oh, mais pas sûr.
Pas de retraite pour les stars de l'action.
Donc Jean-Claude Van Damme est cet acteur emblématique d'un certain cinéma d'action de la fin des années 80 et des années 90, qui sont sa grande période de gloire, et qui maintenant continue à travailler assez régulièrement, mais vivote un petit peu dans le circuit des sorties directes en vidéo depuis les années 2000 en quelque sorte. Donc voilà, sa grande période, c'est une douzaine d'années, de 88 à 2000 à peu près.
Ouais.
Et
donc il y a 20 ans déjà.
Ouais, oui, ce qui ne nous rajeunit pas. Enfin voilà, pourquoi moi j'avais choisi d'en parler. Parce que cette période 88-2000, ça correspond à mon adolescence, ce qui ne nous rajeunit pas non plus.
Et oui, tu es vieux, Yann.
Il y a des gens de... Maintenant, là, j'ai rencontré des bénévoles à Prune qui sont nés après 2000.
Et oui. Mais là n'est pas la question. Nous n'avons qu'une heure devant nous. Hein. Il va falloir... Jean-Claude Van Damme,
Né à Berchem-Sainte-Agathe, dans la grande banlieue bruxelloise.
Ouais. Et c'est pas son vrai nom, Jean-Claude Van Damme.
Non, il s'appelle Jean-Claude Van Warreber. Il a plus ou moins raccourci, standardisé pour l'export, hein, puisque son nom était très difficile à prononcer par les Américains. Donc il avait choisi Van Damme, qui reste un nom typiquement belge, qui était le nom d'un ami à lui, en fait. Mais prononçable par des Américains. Mais voilà, il avait quand même envie de conserver cette identité belge auprès du public international, en tout cas. Mmh. Il a une formation de karaté et également de danseur.
Oui.
Et de bodybuilder. Il a fait les trois. Il fait ses débuts au cinéma en 1979, dans, tout petit figurant subliminal dans un film belge, d'un réalisateur belge assez important à l'époque, qui s'appelle André Delvaux. Le film s'appelle « Femme entre chien et loup » et Jean-Claude y a sa première bagarre, c'est contre Rutger Hauer.
Oh.
Ce qui est quand même assez extraordinaire comme l'autre grosse star Benelux de ces années-là. bon, c'est très subliminal hein, parce qu'en fait, j'ai retrouvé la scène sur les internets. Ça se passe tout. En fait, on les voit par la fenêtre de très, très, très loin. Donc, bon, il faut vraiment savoir que c'est eux.
Ok. Mais il y a eu un combat.
Mais la carrière de Jean-Claude Van Damme commence par une bagarre contre Rutger Hauer. C'était quand même un bon démarrage.
C'est plutôt classe.
Après ça, il va essayer de tourner. En France, mais ça ne va pas se faire. Il y a une rumeur qui voudrait qu'il était pressenti un moment pour apparaître aux côtés de Weng Weng, le nain philippin qui faisait aussi du kung-fu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vérifiable. La suite, ça va se passer aux États-Unis. Il va avoir quelques rôles de figurant dans des productions canon, notamment aux côtés de Chuck Norris, dont il va être le sparring partner.
Ouais.
C'est-à-dire, dans le langage de la boxe, c'est celui qui se prend les coups pour aider l'autre à s'entraîner à taper fort. Donc Chuck Norris, à son entraînement, tapait sur Jean-Claude Van Damme. Ça lui a permis, en échange, d'avoir des rôles de figuration dans quelques films de Chuck Norris, comme Portée disparue. Mm-hmm. Il y a un moment, il va être pressenti pour le rôle du Predator, mais ça ne va pas se faire.
Été plus loin que ça, quand même.
Oui, mais enfin, ça ne s'est pas fait.
Il y a eu des essais costumes, etc.
Et il va avoir son premier vrai rôle en 1986, comme un rôle de méchant dans No Retreat, No Surrender de Corey Yuen, Karate Tiger chez nous, ou Le Tigre Rouge, qui est un début assez intéressant parce que Corey Yuen, c'est un bon faiseur du cinéma de Hong Kong. C'était un ancien membre de la troupe des Seven Little Fortunes, qui était une troupe de l'Opéra de Pékin dans laquelle on retrouvait Yuen Biao, Jackie Chan et Sammo Hung. Donc voilà, il avait quand même commencé plutôt entre eux de bonnes mains. Hein. Corey Yuen sortait de Yes Madame, dans lequel il avait lancé deux futures grandes stars du cinéma de bagarre, Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock. Donc Jean-Claude partait quand même sur des bons auspices avec... ce film-là, même si voilà, c'est un film plutôt léger, voire un peu débile, mais très très amusant. Hein. C'est l'histoire d'un jeune garçon, une histoire un peu à la Karate Kid. Un jeune garçon qui est joué par un acteur qui s'appelle Kurt McKinney, dont le papa est agressé par Jean-Claude Van Damme, qui joue un méchant russe, comme tous les méchants de l'époque dans les films américains, hein, c'est les années 80.
C'est ça.
Surtout quand ils avaient un accent européen, ils étaient russes par défaut.
Ouais, ou même anglais. Enfin, beaucoup d'anglais qui jouaient des Russes à l'époque aussi.
Et ce personnage joué par Kurt McKinney va s'entraîner grâce à l'aide du fantôme de Bruce Lee, qui est joué par un sosie de Bruce Lee. Voilà, pour ceux qui aiment les films de faux Bruce Lee, c'est à mettre sur la liste quand même. Et on va retrouver Jean-Claude juste dans le dernier quart d'heure du film, où il joue le méchant dans le combat final. Et dans ce dernier quart d'heure, voilà, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Puisque comme c'est un match de kickboxing, le personnage de Van Damme arrive auréolé d'une lumière, vous savez ce qu'on appelle les poursuites dans le langage de l'éclairage de sport. Ces lumières tombantes qui suivent le sportif qui entre en scène. Et ça fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est comme une apparition, j'ai presque envie de dire, au sens Bernadette Soubirous du terme.
Ouais.
Voilà, Jean-Claude Van Damme arrive auréolé de lumière.
Une inspiration divine.
Et puis surtout, il est à partir du moment où il entre en scène, il vole complètement la vedette à Kurt McKinney, le héros du film, qui est par ailleurs tout à fait doué hein, dans sa tranche. Mais voilà, entre ces mawashi effectués à la perfection et le grand écart sur les cordes du ring, il y a tout de suite quelque chose d'extrêmement impressionnant chez Jean-Claude Van Damme. On va le retrouver encore dans un rôle de méchant en 88 dans Black Eagle, l'arme absolue, où là il joue face à Shoko Sugi, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a eu sa petite heure de gloire en jouant dans les films de ninja produits par Menahem Golan.
American Ninja.
American Ninja, Ninja 2 The Revenge, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Ninja 3 The Domination, qui est très très drôle, parce qu'ils avaient mélangé les films de ninja avec Flashdance et L'Exorciste. c'est assez à voir. Et, okay. dans Ninja 2, il y a quand même une scène très drôle où Shokozugi se bat contre des méchants habillés en Village People.
Ouais.
Voilà, si okay. vous voulez voir ça.
Bah voilà.
Et puis bon, après ça, Jean-Claude va avoir son premier rôle de héros dans un film qui va beaucoup marquer.
Ouais.
Donc en 88, Bloodsport. Mm-hmm. Bloodsport qui est envisagé au début par Golan et Globus, donc les gros patrons de la Canon, qui était cette boîte qui produisait beaucoup de séries B d'action et de films de ninja, notamment. Donc les films avec Shokozugi, mais aussi avec Franco Nero dans le premier.
Ouais.
Et puis toute la série des American Warriors avec Michael Dudikoff. Mm-hmm. Et il semblerait qu'en fait, à l'époque, Golan, qui était donc le créatif, Globus, son cousin, c'était plutôt le financier de l'entreprise. Et Golan, apparemment, ne misait pas tant que ça sur Van Damme. Il lui aurait un peu donné sa chance comme ça avec un projet qui traînait sur un coin du bureau, mais il croyait beaucoup plus au American Warrior de Michael Dudikoff, mm-hmm. que paradoxalement on a totalement oublié aujourd'hui, même si c'est des films qui restent assez rigolos à regarder.
Mm-hmm. Et puis une dichotomie aussi intéressante avec Golan et Globus, avec la Canon, c'est qu'ils ont aussi produit des très grands réalisateurs.
Oui,
en même temps que leurs films de
Ninja. Love Streams de John Cassavetes, King Lear de Jean-Luc Godard,
Barfly
de Barbet Schroeder, Runaway Train de Konchalovsky.
Il y a
quand même, voilà, on les présente parfois de manière un petit peu caricaturale, mais totalement justifiée comme
oui.
Comme des entourloupeurs de
scrocs
qui produisaient des séries Z, enfin, mais un peu augmentées.
Ouais.
Et qui avait la prétention d'être, de marcher sur le terrain de la série A sans en avoir absolument les moyens ni esthétiques ni financiers.
Ouais.
Mais ils avaient une grande gueule. Enfin, quand on voit des archives d'époque de Golan en train de baragouiner des mecs pour leur tirer de la thune, c'est quand même assez impressionnant à regarder.
Ouais, non, puis il y a un côté David contre Goliath. Il y a une vraie envie de cinéma derrière, même
ouais.
si c'est quand même des escrocs. Mais c'est
des,
assez fascinant.
Des escrocs passionnés et assez attachants, finalement.
Et d'après ce que j'ai compris, Van Damme a galéré quand même à ses débuts aux États-Unis. Et il a rencontré Golan ou Globus, je ne sais plus, peut-être au marché du film à Cannes. Et, enfin, en gros, il a fait des cours retournés.
Il avait filé sa carte. Alors, l'histoire, ça serait qu'il l'ait retrouvé dans un restaurant où il était serveur. Et il serait, au moment de lui servir les plats, il lui aurait fait un mawashi au-dessus de la tête pour l'impressionner.
Voilà ce qui... Donc, n'hésitez pas, ami serveur.
Vous êtes au restaurant, s'il y a des gens qui sont producteurs, méfiez-vous des serveurs qui pourraient avoir des idées un peu exubérantes.
On a l'air un peu costaud.
Voilà, en tout cas, Bloodsport, sur lequel Golan, visiblement, ne mise pas tant que ça, va d'abord sortir en vidéo aux États-Unis. Mm. Et le film va tellement cartonner, en fait, qui va être acheté pour le marché salle à l'international. Et notamment en France, il va sortir en salle et ça va être un très très grand succès. Alors ça peut surprendre un petit peu rétrospectivement parce que le film est honnêtement pas terrible.
Non, c'est pas son meilleur hein, du tout, de début.
Mais qu'est-ce qui se passe dedans ? Il y a Jean-Claude Van Damme. Il y a quand même l'apparition de Jean-Claude Van Damme. Et c'est quand même un film qui va être assez important parce qu'il va y avoir trois films suivants qui vont... En reprendre des éléments, puisque l'histoire de Bloodsport, hein, donc c'est Jean-Claude Van Damme qui joue le rôle de Frank Dux, qui était un mec apparemment très très mytho, qui prétendait avoir, c'est censé être autobiographique, hein, avoir gagné
autobiographique.
De la part de Frank Dux, donc le scénariste du film,
ah oui.
dont Jean-Claude joue le rôle dans le film. Mm-hmm. Il prétendait avoir gagné un tournoi secret à Kowloon, qui était une enclave chinoise au sein de Hong Kong. Mm-hmm. Mais en fait, comme les Chinois ne s'en occupaient pas, c'était autogéré par les gangs.
Mm. Et, mon cul.
Et ça a été, donc c'était un peu un nid à fantasmes. Hein. On pouvait notamment y organiser donc, des comités.
Des comités, ouais. Et oui, mais ça, c'est un gros fantasme aussi. Les concours clandestins, c'est quelque chose qui va revenir extrêmement souvent dans les jeux vidéo, dans les films.
Ouais, bah ça va être la matrice de Mortal Kombat, hein, notamment. Mm-hmm. Et puis on va le retrouver dans plusieurs films de Jean-Claude Van Damme, des choses qui ressemblent. Dans Kickboxer, son film suivant, on retrouve L'idée de tournoi semi-officiel, avec aussi des séquences d'entraînement très très dures, comme on en voit dans Bloodsport. Dans Full Contact.
Il y a un côté un peu plus bon enfant quand même dans Kickboxer, un côté Monsieur Miyagi quand même, avec un peu Karate Kid.
Enfin, il lui fait quand même donner des coups de pied dans des arbres jusqu'à ce qu'il les casse.
Oui, bien sûr, c'est un peu. Mais c'est plus gentil que Bloodsport quand même.
Dans Bloodsport, il l'écartèle pour lui faire faire le grand écart.
Ouais.
Ça fait mal. Ça fait mal rien que d'y penser. Dans Full Contact, qui est, à mon avis, son premier très bon film. Son premier bon film, on va dire, pour être plus raisonnable, il reprend le principe du militaire qui déserte pour aller participer à des tournois clandestins et qui va être poursuivi par d'autres militaires qui veulent le ramener au bercail. Donc c'est exactement la même trame que Bloodsport, mais transportée en contexte américain. Mm-hmm. Et dans The Quest, le premier film réalisé par Jean-Claude Van Damme, c'est un peu en fait une transposition de luxe de Bloodsport, puisque c'est la même histoire, mais en version film d'époque, et avec une guest star de luxe, hein, puisque c'est Roger Moore qui lui donne la réplique dans le film.
Oui.
Qui était un peu en semi-retraite à l'époque.
Hein, qui fait pas le minimum.
Ouais, mais
il est bien.
C'est Roger Moore, il est très classe.
Il est cool, ouais.
Et puis voilà, dans Bloodsport, on va quand même, mine de rien, voir des thèmes que je vais développer un peu plus par la suite apparaître. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore un peu dans le schéma des films donc, de Hong Kong façon Drunken Master, donc avec un maître qui entraîne son élève pour qu'il soit le plus fort possible. Donc, quelque chose dont il va se détacher par la suite pour plus américaniser les films. Mais on retrouve quelques vedettes de Hong Kong. Donc le maître est joué par Roy Chiao, qui a joué beaucoup de second rôle dans des films de Jackie Chan, notamment, il me semble. On voit Paul Otosha, qui joue un kickboxer, qui était un acteur qui jouait les faux Stallone dans les films de Godfrey Ho.
Oula.
Mais voilà. Surtout, on a un méchant assez impressionnant, même qui fait vraiment très très peur, en regardant la caméra, quoi, qui est Bolo Young, qui était ce costaud qui se battait contre John Saxon dans Opération Dragon,
ouais.
Et qui là fait un méchant vraiment terrifiant, et que Van Damme reprendra un peu plus tard dans Double Impact. Et qui, voilà, le combat final donc, de Van Damme contre Bolo Young peut-être explique ce qui est suffisamment marquant pour expliquer le succès du film. Voilà. Qui est intéressant parce que c'est réalisé par Newt Arnold qui était qui avait déjà la soixantaine en fait à l'époque, donc qui était sans doute pas plus que ça intéressé par le fait de filmer de la bagarre et plus par filmer Hong Kong et Kowloon, dont ils sortent d'assez belles images, et qui avait été un assistant de prestige, hein, pour Friedkin, pour Peckinpah, pour Coppola, et qui s'est retrouvé dans les années 80, on ne sait trop comment, réalisateur de seconde équipe pour la Canon. Avant qu'il lui confie donc un film comme réalisateur principal.
Et le film a eu un très grand succès, notamment en France, ouais.
Oui, puisqu'il a, d'ailleurs, il me semble, alors j'ai pas retrouvé, mais il me semble que c'était une des premières importations des frères Adidas, qu'ont après fondé la Metropolitan Film Export,
ouais.
Qui s'est spécialisé dans les années 90 dans la distribution en France de films de Hong Kong.
Exact, ouais. Et puis, coup sur coup, ces trois premiers films là dont tu parlais, Bloodsport, Kickboxer et Full Contact, ces trois films qui ont vraiment marqué la jeunesse, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi aussi, avec ces jaquettes, en fait, avec ces affiches où Van Damme fait le grand écart sur une ligne de chemin de fer, par exemple,
ça c'est l'affiche de Full Contact qui n'est pas dans le film. Hein.
En plus, ouais. Ouais. Oui, parce qu'il a trois noms différents.
Wrong Bet, Absent Without Leave, Lionheart. Il est sorti sous plusieurs noms différents.
Ouais. Mais en tout cas, ouais, chez la jeunesse française de l'époque, en tout cas, Van Damme arrive vraiment comme un raz-de-marée, en fait, et va marquer les esprits, les jeunes esprits, en tout cas, avec ses prouesses. C'est pour être technique et puis son charisme à l'écran.
Oui, son charisme qui est vraiment, voilà, dans Bloodsport, donc dans les deux précédents films, il jouait des méchants. un peu dans la tradition des méchants costauds de films d'Hollywood.
Bah, c'est très Lundgren dans Rocky
voilà.
IV. Hein.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va, il va en fait finalement complètement se démarquer ça. Dans Bloodsport, il est presque filmé comme une sorte de Tintin, quoi, un jeune homme assez souriant.
Il a une coiffure très...
Ouais, un brushing sur le côté, très très propre sur lui. C'est l'époque de Schwarzenegger, donc tu disais de Lundgren, Stallone. C'est l'époque où Stallone commence à tripler de volume à chaque film. On va vers voilà, on découvre des corps qui sont des corps de monstres de foire presque, extrêmement impressionnants. Hein. C'est l'époque où on voit arriver au cinéma les superstars du catch hein, comme Hulk Hogan dans Rocky III ou André Roussimoff dans Princess Bride. Et donc des corps qui en deviennent tellement balèzes qu'on dirait presque des personnages de cartoon, en fait. Mmh. Et Jean-Claude Van Damme, à côté de ça, va plutôt... voilà, j'ai dit qu'il avait une formation de danseur. Il a un physique qui est presque féminin, en fait, en comparaison. Très
gracieux.
Très gracieux, très élégant. Voilà, il fait le grand écart, qui est quelque chose qui demande beaucoup de souplesse. Donc, il montre autant la souplesse que la force. Et en fait, ce corps de monstre à la Arnold est plus incarné dans le film par Bolo Young, qui est justement le gros méchant. Et,
il fait 1m77, Jean-Claude.
Oui, donc voilà, il est dans un physique tout à fait raisonnable en fait pour un individu de sexe masculin et y a aussi voilà c'est cette mise en avant donc de la souplesse donc je disais avec le grand écart avec des coups de pied qui vont être systématiquement portés très haut si on pense par exemple à la scène d'introduction de Commando où on voit Schwarzenegger portait un tronc d'arbre sur l'épaule, là, et il est filmé en très gros plan, découpé, avec une attention plutôt portée sur les biceps, sur le poitrail, sur les épaules, enfin voilà, sur ce qui fait l'homme fort. À côté de ça, Jean-Claude Van Damme va souvent montrer des nudités de dos, il montre ses muscles du dos et beaucoup ses muscles fessiers. Hein, il aime beaucoup montrer ses fesses dans les films, il y a quand même... Voilà.
Puis ses fesses, oui, effectivement.
Et qui sont plutôt des muscles en fait, qui vont être mis en avant chez les gymnastes ou chez les danseurs.
Est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait de la bande originale de ce premier succès
De Bloodsport
bah, par exemple, ben, alors, ou ce que tu veux. Hein,
tout
mais...
à fait. Bah, si, on peut mettre la bande... original de Bloodsport. Dès que voilà, j'arrive, je cale ça sur le
et oui.
cartouchier. Voilà.
Et oui, parce que
alors j'ai pas mis Bloodsport. J'ai...
Oui.
Excuse-moi deux secondes.
C'est pas grave.
Voilà, on a eu un petit souci en régie.
Oui. Voilà,
donc je balance ça.
Rien de très grave.
Donc c'est Fight sur Survive, to Survive sur la BO de Bloodsport.
Merci.
le cinéma de B à Z et de A à X.
Et oui, de retour dans 100 ans de cinéma et des poussières avec notre invité Yann Kraft et ce jingle de B à Z et de A à X qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui.
Ah oui, là on est vraiment dans le B à Z avec un petit peu de A quand même, et on en parlera peut-être brièvement.
Alors Jean-Claude Van Damme de retour avec nous donc dans cette émission qui reprend 100 ans de cinéma et des poussières consacrée aux 125 dernières années de cinéma, donc le titre, avec notre invité Yann Kraft qui a choisi comme thématique Jean-Claude Van Damme, l'homme et la filmo, bien entendu.
Bah oui, et les thématiques, voilà, puisque l'idée que j'avais un peu derrière la tête en te proposant ça, hein, c'était d'écraser un petit peu l'image de Van Damme, qui est un petit peu écorné par quelques pitreries télévisuelles dont il est coutumier depuis une vingtaine d'années, même si il en fait un petit peu moins maintenant, pour montrer qu'il y a une vraie cohérence d'auteur, en fait, chez Jean-Claude Van Damme, et des thèmes qui reviennent, et notamment un thème qui est sans doute lié à l'éducation catholique de Jean-Claude Van Damme, qui semble alors pas traditionnaliste au sens où on peut l'entendre en Vendée, par exemple, mais en tout cas un peu à l'ancienne, et avec cette thématique de l'effort qui revient beaucoup et qui revient en fait jusqu'à une forme de dolorisme, comme on peut en trouver chez Mel Gibson notamment.
Chez Mel Gibson, on parle de martyr, hein, même.
On n'en est pas loin chez Jean-Claude. Hein. Je parlais donc des entraînements dans Bloodsport et dans Kickboxer, qui sont vraiment des entraînements à la dure, qui était quelque chose qu'on trouvait déjà chez Liu Xiaolong, chez Yun Wuping, mais un peu désamorcé par un ton comique parfois qu'il n'y a pas là. Mm-hmm. Et surtout, Jean-Claude montre souvent que c'est dur, les combats. On pense à Bruce Lee, par exemple, dans La Fureur du Dragon, quand il prend les trois méchants dans l'allée. Là, les mecs n'arrivent même pas à s'approcher à 20 cm, en fait. Ils les dégagent tout de suite. Bon, dans Commando, Schwarzenegger, il tue 200 mecs en 5 minutes, les mains dans les poches, quasiment.
C'est limite une parodie, hein, Commando, quand même.
Oui, mais en tout cas, ça imposait un style. Et ça n'existe pas vraiment chez Jean-Claude Van Damme. Et souvent, donc on va le voir dans le combat contre Bolo Jung à la fin de Bloodsport. Jung triche, il lui envoie de la poudre dans les yeux pour l'aveugler. Et donc à ce moment-là, il se retrouve un peu dans la lignée des héros handicapés comme Zatoichi ou comme le savoir manchot des films de Chang-Chi. Il se retrouve mis en difficulté et il va devoir se transcender vaincre. Et ça, ça se retrouve dans les films suivants comme dans Full Contact. On montre que les combats sont difficiles, notamment le dernier où il est en fait au début présenté plutôt comme potentiellement perdant, et puis il doit trouver en lui la force de gagner, de retourner le combat, et il finit complètement en sang. Hein, dans Kickboxer, à la fin, ils se battent à coups de verre pilé, donc c'est aussi une esthétique des stigmates qui est très Saint-Sulpicienne. Mm-hmm. C'est un rapprochement que je m'autorise.
C'est bien pour ça qu'on t'invite.
Scène
qui a été parodiée dans Hot Shots.
Dans Hot Shots, où ils se mettent des Smarties, non,
ou quelque chose comme ça. Tic-tac, carambar.
sur les poings. Et dans un de ses derniers grands films récents, qui était JCVD, qui était un film où il jouait donc une version décalée de lui-même. Ça commence sur une scène d'action en plan séquence, donc dans laquelle il n'est pas possible de tricher, où il est obligé de faire l'effort physique jusqu'au bout de l'action. Donc c'est assez impressionnant, d'autant plus que ça date de quoi, 2009, donc il est à juste avant 50 ans. Donc il est quand même à un âge où tout le monde n'est pas aussi en forme que lui. Et il finit cette scène en disant, après avoir fait cet effort incroyable qu'on a vu, en disant « c'est trop dur, j'en peux plus ». Donc il y a toujours une expression de la difficulté qu'il y a à mobiliser son corps pour à le transcender, pour réussir à l'action. Et je trouve que ça c'est à rapprocher de thématiques christiques qu'on retrouve dans certains de ses films, mais parfois de manière très, très littérale, hein, notamment, il me semble, dans Cyborg et dans In Hell, il y a des scènes de crucifixion, ouais. Jean-Claude Van Damme est crucifié. Dans Universal Soldier, il est question de résurrection, hein, puisqu'il joue quelqu'un qui est mort au Vietnam et qui va être ramené à la vie. Dans,
et qui a des flashbacks qui est douloureux, hein, oui, en plus.
Oui, donc qui vit dans la douleur. Et dans Until Death, il joue quelqu'un qui est sorti du coma, je crois. Enfin, voilà. Donc on est un peu dans la thématique de la résurrection, de manière un peu plus tirée par les cheveux dans Time Cop, où il revient dans le passé pour se retrouver lui jeune. Mmh. Voilà, donc il y a quand même ces thématiques-là reviennent assez régulièrement, et puis avec derrière quelque chose qu'on trouve aussi chez Stallone, qui est l'idée de réparer les erreurs. Donc dans Time Cop, il remonte le temps pour sauver sa femme qui a été assassinée dans le passé. Dans
Kickboxer, il venge
son frère qui a été paralysé. Et puis il y a certains films où il joue des personnages alors qu'ils sont pas forcément des méchants, mais qui auraient pu en être en tout cas, qui sont parfois du mauvais côté de la barrière et qui vont devenir des bons. Hein, donc dans Universal Soldier, il est prévu qu'il soit un tueur sans âme, et finalement il va s'affranchir de ça. Dans Piège à Hong Kong, il joue un truand qui va se retrouver finalement du bon côté de l'action. Dans In Hell, il joue un personnage de Tolar qui est extrêmement violent au début du film et qui va finir par trouver une forme de rédemption en transcendant cette violence. Dans Pound of Flesh, qui est un de ses films plus récents, un des moins inintéressants de ses sorties vidéo, il joue quelqu'un qui doit donner un rein, je crois, enfin un organe pour sauver sa nièce. Donc là, on est vraiment dans la thématique du don du corps, donc quelque chose de très très christique quand même pour sauver les autres. Et le paroxysme de ça, je trouve que c'est Réplicant, qui est à mon avis le plus beau film de sa carrière, réalisé par Ringo Lam, où il joue le clone d'un tueur en série, hein, c'est-à-dire que les profilers qui suivent le tueur ont réussi à récupérer son ADN sur une scène de crime, et ils vont s'en servir pour le cloner, en partant du principe que seul lui-même peut se pourchasser et réussir à s'attraper.
Logique.
Et donc là, il y a carrément le remplacement du méchant par le gentil, avec le gentil qui a le même corps que le méchant, mais en version un petit peu plus jeune, et qui a un esprit vierge et purifié. Mm-hmm. Donc là, on est vraiment dans quelque chose que je trouve extrêmement intéressant thématiquement parlant. Et en plus, bon, le Réplicant, c'est un des trois films que Jean-Claude Van Damme a tourné avec Ringo Lam, qui est malheureusement décédé il y a un an ou deux.
Ah oui.
Et qui est un excellent réalisateur de films d'action de Hong Kong, peut-être un peu moins connu que Tsui Hark et John Woo, qui sont les autres Chinois avec qui Jean-Claude Van Damme a tourné, mais voilà, tout aussi intéressant.
D'ailleurs, et c'est à noter, il a été très important pour la venue de ces réalisateurs aux États-Unis, pour les faire travailler à Hollywood.
Bah, en tout cas, pour John Woo, qui est resté une bonne dizaine d'années à Hollywood, même si apparemment le tournage de Hard Target, Chasse à l'homme, s'est pas très très bien passé, parce que Jean-Claude Van Damme voulait avoir le contrôle artistique et les coproducteurs ne faisaient pas totalement confiance à John Woo, alors qu'il avait déjà 30 ans de carrière derrière lui. Hein, mais, et finalement, le film s'est bien passé grâce à Sam Raimi, qui avait été embauché comme caution, c'est-à-dire il était censé surveiller John Woo, qu'il fasse pas de bêtises, et le remplacer au pied levé s'il avait besoin de le sortir. Et il a passé le film à dire « Mais tout se passe très bien, c'est formidable !» Donc voilà, c'est un peu Sam Raimi qui a sauvé la carrière de John Woo à Hollywood. Et après ça, oui, Jean-Claude a tourné deux films avec Tsui Hark, qui sont vraiment excellents. Le premier, c'est une sorte de relecture du Monte Cristo.
Oui.
Avec quand même dans les seconds rôles Mickey Rourke et Dennis Rodman.
Eh oui, Dennis Rodman. Le Dennis Rodman. Et
ça change de cheveux à chaque scène.
Et ça s'appelle Double Team.
Double Team. Ouais. Et le deuxième, Piège à Hong Kong, qui est un craquage absolu, mais qui est un film qui peut consterner, parce que ça va très très loin dans la débilité. Il y a quand même une scène de course de pousse-pousse,
oui,
dans laquelle Rob Schneider, qui joue le sidekick comique pas drôle, hein, comme l'est souvent Rob Schneider, fouette le cul de Jean-Claude avec une anguille.
D'accord. Ouais.
Pour le faire avancer plus vite. Voilà. Mais à part ça, il y a des idées, des complètement folles d'inventions de mise en scène de la part de Tsoyark. Donc c'est vraiment, à mon avis, malgré son côté un peu idiot qui peut rebuter de prime abord, je pense que c'est un des sommets de la carrière de Jean-Claude Van Damme.
Et ouais, puis justement, le sommet, on y est presque à cette période-là, fin des années 90.
Oui, c'est voilà, dans les années 90, Jean-Claude Van Damme devient un peu une vedette de... Alors, il n'y a aucun film qui soit vraiment un blockbuster. Il y en a certains qui s'en rapprochent pas mal, notamment les deux films qu'il a tournés avec Peter Iams. Mm. Donc Time Cop, qui est vraiment un super film de SF. Ouais. Et puis Mort Subite, qui est un semi-Die Hard, en quelque sorte. C'est Die Hard dans le... Je ne sais plus si c'est une patinoire de hockey ou un stade de football américain.
Enfin, c'est un grand stade, en tout cas. C'est un
complexe sportif, en tout cas.
Et il y a un combat en serviette.
Et puis bon, il y a Street Fighter à l'époque aussi, qui est vendu un peu comme une super grosse production.
Ouais.
Le résultat est assez consternant, malheureusement.
Ouais, c'est pas une réussite.
Mais
un film qui était quand même pas mal attendu par nous encore, les
jeunes de ces années-là,
les jeunes de cette époque-là, qui jouions à Street Fighter 2 sur Super NES. Et grosse déception au cinéma quand même, même si il y a un peu de fan service où on voit quasiment tous les personnages, même secondaires.
Oui, mais finalement, le côté bagarre primaire qui était la marque de Street Fighter et qui finalement était tout à fait dans la lignée de films comme Bloodsport ou Full Contact, et donc on pouvait s'attendre à quelque chose comme ça, ça a été remplacé par un film à la Guns of Navarone, un peu, ou à un film d'infiltration à la Dirty Dozen.
Ouais.
Et qui fonctionne pas, quoi. Il faut lire par contre les articles qui existent sur le tournage du film, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui sont très très drôles.
Ouais.
Notamment la fameuse scène d'insulte. En fait, c'est parce que le premier montage était trop violent. Il fallait avoir un rated R ou PG-13, je sais plus. Ouais, un PG-13 pour que ça sorte. Donc le premier montage était rated R, donc ils l'ont coupé. Et en repassant ce montage plus soft, ils se sont retrouvés avec un PG. Et donc là, ils ne voulaient pas sortir un film tout public, voilà, alors que c'était censé être un film de bagarre. Il s'est dit, non, mais personne ne va jamais voulu aller voir ça. Ils vont croire que c'est pour les enfants. Ils vont tout ça. Et donc, ils ont juste rajouté une scène où Jean-Claude Van Damme insulte Bison, qui est joué par l'immense Raoul Julia, dont c'est le dernier rôle.
Ouais, il lui dit le
comptage exact de gros mots qui permettait de passer au PG-13. Quoi. Parce qu'on a droit à un certain quota de gros mots dans les films américains avant d'être considéré comme un film pour adultes.
Je crois qu'on a le droit de dire « fuck »
une fois et hors du contexte sexuel.
Voilà, donc comme une insulte. Quoi. Voilà. Donc c'est ce que j'imagine il lui a dit.
Et voilà. Après ça, au début des années 2000, il tourne moi, les deux films que je préfère, les Réplicant et In Hell avec Ringo Lam.
Ouais.
Par contre, c'est le début de la décadence. Il a des petits soucis avec la poudre à l'époque.
Il fait un passage très remarqué à la télévision française.
Ouais, il en fait plusieurs qui sont souvent...
Lors du Loft.
Ah oui, et c'était pour la promo de Réplicant. Du coup, je pense que ça a flingué la sortie du film.
En 2001, ouais.
Arrêtez les applauses.
Le premier Loft où, du coup, l'un des participants était très fan de Jean-Claude Van Damme. Aziz, oui. Et du coup, ils ont fait venir JCVD sur scène comme un cadeau aux participants. Et là, Van Damme a vraiment craqué. Quoi. Et ça, c'est assez fascinant à regarder, mais c'est triste aussi. C'est-à-dire qu'on l'a, visiblement, on l'a laissé faire. Lui-même prend un peu trop la parole. Et puis, c'est un peu comme de regarder un accident de voiture. Quoi. On ne peut pas vraiment s'empêcher de regarder, mais en même temps, c'est un peu triste, un peu tragique. Et il va mettre beaucoup de temps à se sortir de cette image, il s'en est jamais vraiment sorti.
Malheureusement, il y a eu la tentative de JCVD, qui était ce film où il jouait lui-même dans une version qui était bien parce qu'elle était dépourvue justement d'autodérision, de cynisme, même si le côté aware était abordé de manière, mais sans humour, de manière assez amère en fait. Et malheureusement, le film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, à mon avis, parce que voilà, je trouve que c'est un très beau portrait de Jean-Claude Van Damme. Il y a eu quand même une autre apparition sur grand écran qui était comme méchant dans Expendables 2.
Ah non, mais ça c'est un truc, il faudra en parler à part, je pense. Expendables 2, qui est quand même vraiment le meilleur de la série. Le premier est presque sérieux.
Le premier est très sérieux, en fait. Ouais. Et le premier évite justement l'autoréférencement, la dérision, la nostalgie presque. Enfin, même si évidemment ça joue là-dessus, mais sans l'appuyer. Mm. Alors que dans le deuxième, on se balance des yippee-ki-yay, motherfucker, beaucoup d'autoréférences.
Oui, mais c'est aussi.
Mais c'est très drôle. Et puis c'est très généreux.
Et puis c'est pas mal écrit. Bon, déjà, il s'appelle Jean Vilain.
Il est très vilain.
Qui est déjà génial. On est très content de le retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le grand écran dans un film de baston.
Il se bat contre Stallone.
Enfin, c'est quand même classe. Et puis, il y a un moment intéressant dans Expendables 2. Sur lequel j'aimerais revenir, qui est vu comme une blague, enfin c'est une blague dans le film, c'est-à-dire à un moment l'équipe donc des Expendables vient sauver une villageoise asiatique, je sais plus où ça se passe d'ailleurs, mais ça a été tourné en Bulgarie, mais ça se passe donc en Extrême-Orient, et ils sauvent donc un village et notamment une villageoise qui leur dit bah merci, mais je sais plus, enfin une petite pique qu'elle leur envoie à cette équipe en disant merci à vous les Américains, vous êtes toujours là les Américains, et donc tout le monde répond, alors Stallone en premier dit non, moi je suis italien, Stallone, et Lundgren suédois, Statham anglais, etc. Et la blague c'est que Terry Crews dit bah ça se voit pas, je suis black. Bon. Et Van Damme, lui, est belge. Et en fait, quasiment tous les personnages, tous les acteurs qui jouent dans ce film viennent effectivement d'ailleurs et pas des États-Unis.
Scott Adkins, qui joue le sidekick de Van Damme dedans, est anglais.
Ben oui, oui.
Il y a
Luke Hemsworth qui est australien. Et en fait, finalement, il y a cette notion avec Van Damme, mais d'autres aussi. Schwarzenegger, bien entendu, Lundgren. Enfin, des gens qui viennent d'ailleurs, qui se sont faits aux États-Unis à la force du travail, à la force de leurs poings et qui. Et donc, Van Damme fait partie justement de ces personnes-là qui valorisent finalement le rêve américain, comme quoi il est possible de faire carrière là-bas en travaillant. Et je trouve ça assez chouette.
Et puis ça montre bien, oui, la dimension internationale de toutes ces séries B de l'époque. Hein. Dans le premier, il y a Gary Daniels qui était aussi un Anglais. On peut penser à tous les gens qui sont allés, tous les Australiens comme Richard Norton qui tournait dans les films de Hong Kong. En fait, c'est quelque chose de très international et ça s'est fait peut-être aussi par les vidéoclubs qui sortaient un peu de la distribution trustée par les Américains. Voilà, c'est peut-être. Et puis par le fait que c'était des productions comme la Canon qui étaient de taille moyenne et qui étaient aussi, qui avaient à leur tête des non-américains, puisque c'est des Israéliens dans l'année Globus. Et qui, en fait, peut-être trouvaient un peu tous les talents qu'ils pouvaient à droite, à gauche.
Et ouais, et du coup, cette générosité, cette possibilité de réussir comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma d'action, pas forcément de série A, hein, donc ouais, effectivement, et dans assez peu d'autres cinémas, finalement, et c'est un petit peu... Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de mettre ça en avant, enfin, moi, j'ai envie de mettre ça en avant. Petite pause musicale avant d'aborder la dernière partie de notre émission.
Graham Revell avec un extrait de la bande originale de Hard Target, Chasse à l'homme. Ça s'appelle Street Fighting Van Damme.
Très bien. Thank you.
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
De retour dans Santé de cinéma et des poussières avec ce tout nouvel habillage qu'on étrenne ensemble avec notre invité Yann Kraft, et je suis très content de te retrouver donc pour continuer et terminer, puisque ça termine.
Très content d'être là aussi.
De parler donc de la thématique du jour que tu as choisie, qui est donc Jean-Claude Van Damme.
Oui, et comme je disais tout à l'heure, j'avais eu surtout une furieuse envie de montrer la cohérence thématique qu'il y avait dans les films de Jean-Claude Van Damme. Mmh. Et un des thèmes qu'on retrouve souvent chez lui, donc, c'est le thème de la famille. On a commencé à en parler un petit peu brièvement, donc notamment avec l'histoire de vengeance dans Kickboxer, où il doit prendre la relève de son frère qui a été paralysé suite à un combat. Mmh. Mais c'est dans le film suivant, Full Contact, qui est en quelque sorte le premier film d'auteur de Jean-Claude Van Damme, puisqu'il est co-scénariste du film. Ce thème va vraiment apparaître, puisque Full Contact, ça raconte l'histoire d'un légionnaire, Léon Gauthier, qui apprend que son frère a été assassiné dans le cadre d'un trafic de drogue.
Brûlé vif.
Oui, c'est très très sauvage. Mmh. Et il part aux États-Unis clandestinement pour aider la famille de son frère. Alors, au début, on peut penser qu'il a en lui l'idée de venger son frère, comme c'était le cas dans Kickboxer. Et en fait, cette idée de la vengeance va être très vite abandonnée, hein, puisqu'il est impossible de retrouver les tueurs. Mm. Et par contre, il va rester pour aider sa famille, qui se retrouve dans le besoin, puisqu'ils ont plus d'argent. Ils ont des frais d'hôpital à payer. Enfin, tout est très difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à payer le loyer. Et pour les aider, pour se faire plein d'argent qu'il pourra leur donner, Jean-Claude Van Damme va participer à des combats clandestins. Donc voilà, il y a cette idée que une chose qu'on peut contester, hein, la violence, la bagarre, ça va servir à une cause noble qui est d'aider sa famille. Il y a souvent cette idée de reconstitution de la famille. Hein, dans Universal Soldier, je disais, il était mort au Vietnam, il est ressuscité, et ce qu'il va vouloir faire, c'est retrouver ses parents, qui sont sans lui depuis une vingtaine d'années.
Oui, bah oui.
Hein, dans Chasse à l'homme, il aide une femme à enquêter sur la mort de son père, dont elle était séparée depuis très longtemps. Donc il y a une idée aussi de reconnecter la fille avec son père. Dans Cavale sans issue, qui est une sorte de remake de Shane, il joue Alan Ladd. il aide une veuve qui est jouée par Rosanna Arquette, et son fils qui est joué par un des frères Culkin.
Kieran,
ouais, je crois. Voilà, à se protéger de méchants. Donc il y a souvent dans des films dans lesquels il doit sauver sa propre famille, hein, donc sa femme dans Time Cop, c'est sa fille dans L'empreinte de la mort, toute sa famille dans Mort subite ou dans Point d'impact. Dans Double Team, il doit retrouver sa femme qui le croit mort depuis des années. Donc c'est souvent cette idée de reconstruire la famille vient très souvent chez Jean-Claude Van Damme. Et dans JCVD, il y a quelque chose qui fait écho un peu à sa propre vie, puisqu'il joue lui-même en procédure de divorce et en procès pour la garde de sa fille. Il faut savoir, Jean-Claude Van Damme a eu un parcours familial assez chaotique. Il a été marié 5 fois, dont 2 fois avec la même femme. En fait, sa femme actuelle était sa 3e femme. Ils avaient divorcé, il s'est marié avec quelqu'un d'autre, il a redivorcé. Et il s'est remarié en 5e noce avec sa 3e femme, avec qui, par contre, ils sont depuis 20 ans. Depuis ce remariage, ça s'est stabilisé. Mais voilà, il y a sans doute quelque chose qu'il travaille justement sur ça, comment il a tous les obstacles par lesquels il est passé, toutes les erreurs pour arriver à avoir une famille stable. Mm-hmm. Et qu'il met lui-même en scène, puisque là, pendant le confinement, il tournait des vidéos avec ses enfants.
C'est un de ses fils qui réalisait l'une des vidéos assez fabuleuses.
Voilà, et ses enfants ont eu souvent des petits rôles dans les films où il jouait donc soit ses propres enfants, soit lui-même plus jeune, comme dans The Quest, par exemple. Et puis, bon, il y a là où ça culmine, ça, c'est le thème de la gémellité. À commencer par Double Impact, dans lequel il joue deux frères séparés à la naissance, ouais, et qui ont des parcours de vie totalement différents, puisque un est devenu un gangster et l'autre est devenu professeur de gymnastique. Donc vraiment oui. le très méchant et le très gentil qui vont se retrouver pour faire cause commune.
Un grand classique du film d'action quand même.
Ouais, et puis un chouette
le
film.
Le double rôle d'un acteur comme ça.
Oui.
Chose qu'on retrouve.
Dans le l'homme au masque de fer, c'est quelque chose qui vient de Dumas, le masque de fer, les frères Corse. Il y a eu ça dans justement La Tulipe Noire avec Alain Delon.
Le prince et le pauvre.
Oui.
Ce genre de choses.
Et on retrouve ça dans Risque Maximum, le premier film qu'il a tourné avec Ringo Lam, qui est une sorte de pré-mémoire dans la peau en quelque sorte. Dans lequel il découvre qu'il a un frère jumeau dont il ignorait l'existence, qui vient de mourir, et il va enquêter sur la vie de ce frère. Ouais. Et puis, il y a les cas extrêmes qui sont Time Cop, dans lequel il remonte le temps pour se rencontrer lui-même.
Ouais.
C'est quand même assez impressionnant. Et Répliquant, dont je parlais, donc il y a une histoire de clonage, où il y a deux jumeaux, mais qui cette fois sont artificiels. Sont des doubles, en tout cas, enfin, le premier est né naturellement, mais le deuxième est fabriqué.
Ouais.
Et il y a un de ses films récents les plus intéressants, je trouve, ce qui est le quatrième Universal Soldier, Day of Reckoning, le jour du jugement français, qui est réalisé par John Iams, donc le film de le fils de Peter Iams, qui est un réalisateur qui est cantonné à la série B voire Z, mais qui est extrêmement inventif.
Peter Iams ou
non, John Iams, le fils.
Le fils, oui, par contre. Non, son père a eu quand même.
Oui, il a eu
Salaire à Hollywood.
Gloire, ouais, il a fait des super films.
Et Time Cop.
Et dans le quatrième Universal Soldier, il se retrouve à la tête donc des Universal Soldier qui. Donc je rappelle l'histoire du premier, hein, donc c'était des vétérans du Vietnam qui avaient été, enfin des morts du Vietnam qui avaient été ressuscités pour devenir des tueurs d'élite, des espèces de Terminator en quelque sorte. Et dans le quatrième, en fait, il y a tous les Terminators qui se sont révoltés, qui ont voulu sortir de cette vie qu'on leur avait préprogrammée pour retrouver une autonomie. Se retrouve à former une communauté dont Jean-Claude Van Damme est en quelque sorte le colonel Kurtz.
Exactement.
Et donc, il se retrouve à la tête, cette fois, du... Alors, est-ce que c'est une famille, en tout cas une communauté reconstituée de gens qui n'avaient plus de vie propre, de vie autonome, qui n'avaient donc plus de place dans la société, puisque légalement, ils n'existent pas. Et donc, ils vont reformer une communauté dont Jean-Claude Van Damme serait un peu le leur père à tous. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une idée assez forte qu'il y a dans ce film, qui est assez étonnant.
Oui,
vraiment.
Mais oui, c'est un film étonnant, très violent.
Oui.
Mais vraiment très beau aussi, les images sont belles. Et avec en plus, en plein milieu, cet acteur extraordinaire qui est Scott Adkins,
ouais.
Qui est extrêmement charismatique et très fort en bagarre, et qui joue lui un peu le Charlie Sheen, le Martin Sheen.
Face aux
Kurtz. Et c'est quand même un film assez étonnant. Lundgren revient aussi. Reprend son personnage du premier Universal Soldier, oui. Mais là, cette fois-ci, il est gentil. Enfin bon.
Oui, les rôles sont un peu inversés.
Ouais. Et Van Damme est saisissant dedans aussi. Ouais.
Et voilà, c'est quelque chose dont sur lequel je me suis pas beaucoup penché, mais voir la filmographie de Jean-Claude Van Damme dans l'ordre, c'est aussi voir la construction d'un acteur, puisque dans les premiers films où il est le méchant, il a presque pas de dialogue. Dans Bloodsport, il en a, mais il joue vraiment très très mal. Et il est assez convaincant à partir de Full Contact, hein, qui est un film, même si celle-là c'est un film de bagarre, contient beaucoup de dialogues, de scènes intimes, de scènes avec un contenu un peu presque lotchi, hein, un peu social en tout cas,
oui.
dans lesquelles Van Damme est assez crédible. Et on le voit progresser, et il est à mon avis vraiment bon à partir de Répliquant et In Hell, dans lesquels il livre une performance qui est vraiment, vraiment saisissante.
Ouais, et puis très touchant, ouais. Dans ce double rôle, ouais, dans Répliquant, je me rappelle des quelques scènes où ils se reconnaissent finalement entre eux, les deux clones.
Ouais.
C'est assez fort quand même. Ouais. Et puis bon, bah, tous les moments où, ce qui est quand même pas évident pour un acteur, il joue justement ce personnage qui naît adulte et qui doit tout réapprendre dans cette espèce de laboratoire. Et alors, ça, bon, il y a quelques scènes où il doit apprendre à aller aux toilettes, par exemple,
oui.
Mais bon, ça a été un peu vilipendé à l'époque, mais c'est aussi très joli, très touchant, ouais. Et il est très convaincant là-dedans. Ouais. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est quand même le nom des personnages qu'il joue, Lion Gauthier, Luc Devereaux, Chance
oui.
Boudreau.
Bah, étant donné son accent,
Christophe Dubois.
Il joue souvent, soit donc Léon Gauthier, c'est un Français.
Ouais.
Dans Kickboxer, il joue un personnage américain, mais dont on apprend qu'il a été élevé en Belgique. Il joue souvent des Cajuns, donc dans Chance Boudreau, dans Hard Target, ou des Québécois. Donc alors c'est sans doute un truc pour justifier son accent, hein,
qu'il
n'a jamais vraiment perdu.
Pas du tout perdu.
Mais comme Schwarzenegger non plus d'ailleurs. Mais on peut aussi y voir une manière d'affirmer cette identité de personnage à part dans Hollywood et de personnage qui vient de Belgique, en tout cas, et c'est quelque chose qu'il rappelle régulièrement dans ses interventions, et quand on l'a interviewé, ses pages personnelles sur les réseaux sociaux, il parle souvent donc de ses origines belges, de sa famille. C'est quelque chose qui visiblement lui tient à cœur. Et puis voilà, cette histoire qui est quand même une histoire d'immigration, de petit belge qui s'est fait grand à Hollywood, et c'est toujours un peu irrésistible ce genre d'histoire aussi.
Mais ouais. Alors par contre, oui, il a l'air effectivement de valoriser son origine, mais il s'est très rarement doublé, voire jamais,
dans les
versions françaises.
Non.
Bon, parce que voilà, il s'inquiète pas trop tant que ça, surtout à la grande époque du marché français ou européen. À noter également donc qu'une statue lui a été érigée dans sa ville natale, à côté.
Dans la banlieue de Bruxelles, oui.
Ouais, qui le représente en tant que Frank Dux, donc son personnage
de Bloodsport.
De Bloodsport, c'est joli. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Yann. Kraft, notre premier invité de cette reprise de 100 ans de cinéma, sous le nom 100 ans de cinéma et des poussières, que j'étais ravi de vous présenter aujourd'hui. On se retrouve donc le mois prochain. Ça sera cette émission tous les deuxièmes samedis du mois. Donc, ça sera là, je sais pas, début novembre. Enfin, vous serez au courant en suivant la radio Prune sur les réseaux sociaux, notamment. Et puis, merci, Yann. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que nous. Nous en avons eu un à t'écouter.
Ben, je vous remercie.
Et puis, on se dit donc à dans un mois. Et d'ici là, vous pourrez retrouver cette émission en podcast en attendant la prochaine. Merci et bon week-end.
Cent ans de cinéma et des poussières touche à sa fin. Mais pas de panique. Rendez-vous le mois prochain pour encore plus de cinéma.